RFI, grand reportage. Charlotte Hydrac. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, grand reportage. En Tunisie, où près de 10% des enfants de 5 à 17 ans travaillent. C'est le résultat de la première enquête nationale sur le sujet publiée en fin d'année, alors même que le travail des mineurs est interdit dans le pays. Commerce et agriculture sont les principaux secteurs d'activité qui emploient des enfants, tout comme le travail domestique qui concerne surtout les filles. Celles qu'on appelle aussi les petites bonnes ont 14 ans en moyenne, parfois à peine 8 ou 9 lorsqu'elles sont contraintes de quitter les bancs de l'école et sont envoyées par leur famille pour travailler comme domestiques chez de riches Tunisiens. Si leur sort préoccupe particulièrement la société tunisienne, ce n'est que la face la plus visible d'un phénomène plus large, les conditions de travail des travailleuses domestiques, parfois véritables esclaves des temps modernes. Tant et si bien que depuis février dernier, le gouvernement tunisien a lancé la toute première instance nationale de lutte contre la traite humaine, justement pour prendre en charge les victimes et signaler les employeurs abusifs. Travailleuses domestiques en Tunisie, la fin du silence. Grand reportage signé Cécile Debarge.
Depuis Djendouba, le chef-lieu de la région, la route file vers le nord-ouest de la Tunisie et la frontière algérienne. À perte de vue, des paysages agricoles jaunis par le soleil.
Maintenant, vous êtes à Fernana. C'est la ville de Fernana.
À bord de sa voiture, Walid Razwani, la trentaine, marque un arrêt devant la place principale de la petite ville, l'un des fiefs des fillettes travailleuses domestiques. Quelques fanions représentant le drapeau tunisien sont suspendus aux arbres. Un vieux rond-point gris à la peinture bleue écaillée lui fait face.
Je vais vous expliquer la scène. Elle arrête sa voiture ici. Les deux hommes sont venus d'ici et ils ramènent les deux filles.
À part lui, personne ne réagit.
Cet après-midi-là, donc, vers 16h, lorsque j'étais avec des amis au centre-ville, j'ai vu passer une voiture, une Audi A6, mais je n'ai pas pu mémoriser l'immatriculation. La voiture s'est arrêtée et deux hommes portant des badges sont descendus. On a tout de suite su que c'était des cadres du gouvernement. Quand ils sont descendus de la voiture, ils ont commencé à prendre des photos de la ville avec leur téléphone portable. Après un moment, deux hommes sont arrivés, accompagnés de deux petites filles. L'une avait 10 ans et l'autre en avait 14.
À l'âge de 14 ans.
Au bout de quelques minutes de négociation, les hommes échangent de l'argent et les fillettes montent à bord de l'Audi A6. Walid Razwani s'interpose et l'échange finit au commissariat. Quand Walid Razwani demande d'envoyer des renforts pour arrêter les autres hommes, on lui répond qu'un père fait ce qu'il veut de ses enfants. Il appelle alors un ami journaliste afin de rendre l'affaire publique.
Quand je l'ai appelé, par coïncidence, il était avec le gouverneur de la région et avec le ministre à Tabarka, où se tenait une cérémonie d'ouverture pour fêter l'atterrissage du premier avion Paris-Tabarka. Il s'est débrouillé pour parler avec le gouverneur et j'ai fait de même. On lui a expliqué la situation et on a sollicité une intervention immédiate pour ramener les filles à leur maison. Et effectivement, on les a raccompagnées.
Effectivement.
Sur Facebook, où il a raconté les événements, la nouvelle devient virale. Quelques jours plus tard, des habitants organisent une manifestation pour dénoncer l'exploitation des fillettes comme travailleuses domestiques. Un événement peu suivi, mais hautement symbolique.
C'est la première fois qu'une personne se bat contre ça. On n'est pas habitué à voir des gens contester de tels sujets. C'est peut-être une nouvelle mentalité pour plein de gens de s'opposer à de telles pratiques. Avant, on n'y pensait pas tant que ça, parce qu'au fond, même si un père faisait travailler sa fille, c'était vraiment son affaire, on se disait, son propre père l'a envoyé travailler, bon, qui suis-je pour m'y opposer ?
Si les autorités sont souvent accusées de fermer les yeux, Slaïd Rahi, le commissaire régional de la femme, de l'enfant, de la famille et des personnes âgées à Djendouba, a pris le cas très au sérieux.
On a informé à notre tour le gouverneur et on a pu arrêter le monsieur. On a également parlé avec les mères des filles et nous sommes intervenus pour intégrer les mères dans le programme d'autonomisation économique dont je vous ai parlé pour sauver la situation et empêcher les filles de travailler. Mais on est conscient qu'il s'agit là d'un long travail et qu'il faut faire de gros efforts et cela n'est pas facile.
« Dans la région de Djendouba, l'une des plus défavorisées du pays, près de 70% des habitants vivent dans des zones rurales particulièrement isolées. Pour en prendre la mesure, il faut rouler plus d'une heure sur des routes de montagne pleines de crevasses et de nids de poules. On croise quelques ânes avant d'arriver à Ouled Khmissa, flanqué à la frontière avec l'Algérie. Rapidement, maman et fillette souhaitent témoigner à tour de rôle.
Mon nom est Basma, j'ai 11 ans et j'ai étudié à l'école primaire d'Ouled Khmissa. J'ai étudié jusqu'à la 5e année primaire et puis j'ai arrêté. Je garde le troupeau et je vais apporter de l'eau.
Certaines ont étudié quelques années de plus, mais aucune n'a fini le lycée, pourtant obligatoire jusque 16 ans en Tunisie.
Je m'appelle Ella, j'ai 18 ans et j'étudiais aussi à l'école d'Ouled Khmissa. J'ai arrêté pour les mêmes raisons. La route était mauvaise et mal faite, l'autobus n'y arrivait pas. D'ailleurs, aucun transport ne nous arrive. On marchait à pied, imaginez, jusqu'au lycée.
Pour aller au lycée, Ella et ses amis du village mettaient plus de 2 heures à l'aller, autant au retour. Un très long trajet au cours duquel les parents craignent que leur fille soit agressée. Lorsqu'elles arrêtent l'école, les fillettes et adolescentes sont confinées aux tâches domestiques et certaines envoyées à Tunis, à Sousse ou Nabeul. Le sujet est tabou, mais Faïma, 19 ans, accepte de parler.
Oui, moi par exemple, j'ai arrêté l'école et je suis allée travailler dans des maisons. Ça ne m'a pas plu, je suis retournée chez moi et j'y suis restée à ne rien faire. À vrai dire, je suis allée pour faire du babysitting et même si sincèrement ils se comportaient bien avec moi, je me sentais toujours loin de chez moi, je me sentais seule et perdue. C'est pour ça que j'ai quitté.
La plupart des fillettes connaissent des expériences moins reluisantes.
On les emmène d'ici et certaines sont battues et maltraitées, chacune son vécu. On peut tomber sur des gens bien comme on peut tomber sur des gens mauvais. Cela dépend de sa chance. Il y a celles qui arrêtent de travailler chez une pour aller travailler chez l'autre. Et il y a des dames qui prennent des filles en bas âge qui ne savent rien faire au début, ni laver par terre, ni rien. Donc on les pousse à le faire en les battant et en les maltraitant.
Au bout d'une dizaine de minutes, un jeune garçon de 13-14 ans fait une entrée fracassante dans la maison au sol de béton qui fait office de café du village. C'est le frère de l'une des jeunes filles qui témoigne. Les volets claquent, les chaises tombent, il nous demande de quitter les lieux. Les femmes, elles, voulaient alerter sur la pauvreté qui ronge leur quotidien et leur sentiment d'abandon. Mais souvent, le silence est lourd. Ouchnia Hnia est assistante pédagogique dans la région de Djendouba. Elle se rappelle d'un adolescent de 15 ans réintégré en classe grâce à un programme ministériel de lutte contre l'abandon scolaire.
Il m'a dit qu'il a... Sa sœur, elle enseigne en 4e année primaire, c'est-à-dire qu'elle a 9 ans, entre 9 et 10 ans. Il m'a dit qu'ils sont très pauvres, primo. Secondo, il a sa sœur qui est allée travailler une bonne. Enfin, elle s'est suicidée. Il y a des gros problèmes. Qui rencontrent les filles qui travaillent des bonnes, la fille est violée ou bien elle est...
Les familles ne racontent rien, et même si la fille retourne à la maison après avoir eu des problèmes de ce genre, on ne dit rien. La jeune sœur de ce garçon, par exemple, a été enterrée dans un village différent du sien au cours de la nuit. À écouter Ouchiarnia, qui sillonne les écoles de la région depuis plus de 30 ans, ces histoires n'ont aucune valeur dissuasive.
Même s'il y a des familles qui sont un peu aisées, elles aussi, on voit leur fille. C'est pour ça que j'ai dit que ces dernières années, elle est devenue une mentalité. Donc, Rachid a envoyé sa fille, elle travaille, elle lui envoie de l'argent, moi aussi. Donc, je dois l'imiter et donc je vais envoyer ma fille donc, travailler.
Certaines fillettes décident même de partir de leur plein gré, explique Ouchiarnia, également présidente de l'association Femmes pour la citoyenneté et le développement.
Quand elle voit la fille qui revient de Tunis, elle est bien habillée, peut-être bien peignée, bien maquillée, elle est un peu propre. Donc elle pense, elle aussi, elle veut devenir comme ça, donc elle quitte l'école.
Sur les bancs des écoles où elle travaille, Ouchiarnia affirme que l'abandon scolaire est de plus en plus fréquent, particulièrement autour de 10-11 ans.
Les filles, surtout, elles abandonnent l'école quand elles passent de l'école primaire au collège.
Bachir Abadi est le secrétaire général de l'association Génération Future de Djendouba. En 2013, il a participé à un programme de lutte contre l'abandon scolaire dans plusieurs écoles de la région.
Ils ne savent pas qui est ces filles, si elles sont absentes ou non, donc ils ne cherchent pas. Il y a aussi un autre problème avec le commissaire de l'enfance ou de la famille. Même s'il y a une alerte, vous voyez, on est très très loin de la ville. Donc ces commissaires, ils choisissent de ne pas se déplacer et voir qu'est-ce qui se passe, essayer de changer la ville.
Face à ce défi titanesque, Slaïd Raï souligne que petit à petit, les autorités prennent la mesure du problème.
Mais voilà maintenant, depuis peu, on peut dire avant la révolution, on note une prise de conscience comme un cri de panique, un appel. Le gouvernement a commencé à chercher des solutions. Et après la révolution, la société civile s'est mobilisée de plus en plus. De même pour les médias et les ministères qui sont directement concernés, comme le ministère de la Femme, pour essayer de bloquer ce phénomène. Dans le gouvernorat de Djendouba, on a récemment fait 5 ou 6 sessions avec les maires des différentes régions, notamment les maires de Tabarka, Fernana et Djendouba.
En juillet 2017, le Parlement tunisien a voté à l'unanimité des députés présents une loi contre les violences faites aux femmes. Un point spécifique est consacré au travail des mineurs. Une loi historique, selon la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Mais Nezia Labidi sait que le chemin à parcourir est encore long.
Le plus gros obstacle maintenant, c'est sensibiliser davantage les parents, parce qu'ils pensent qu'en envoyant leurs petites filles, ils vont gagner de l'argent, alors qu'en contrepartie, elles perdent leur fille et ils lui font perdre la vie. Et d'autre part, on va s'attaquer aux intermédiaires. Et c'est une manière pour nous de nous attaquer à toutes les formes de, non seulement de violence, mais de la corruption.
Ce terme de corruption, on le retrouve dans la bouche du commissaire régional de la femme, de l'enfant, de la famille et des personnes âgées à Djendouba.
Ce qui constitue pour nous un grand problème, c'est que l'on trouve des gens bien placés dans des postes du gouvernement dans ces régions qui travaillent en cachette avec les intermédiaires, car il s'agit là d'un commerce lucratif. Ils disent aux parents de la fille qu'elle sera payée 70 dinars, alors que celui qui organise tout en empoche 150. C'est un commerce inhumain.
Les intermédiaires, ce sont précisément eux que la ministre Nezia Labidi désigne comme un maillon essentiel dans la chaîne de responsabilité qui conduit au travail des fillettes.
Ils emmènent des filles vers des horizons inconnus. C'est des petites filles qu'on arrache à leur famille, qu'on arrache à leur milieu, qu'on met dans des maisons, dans des familles qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui se passe. Elles peuvent être exploitées sexuellement, elles peuvent vivre dans des conditions lamentables, et c'est toujours le cas d'ailleurs.
En février 2017, la Tunisie s'est dotée de sa première instance nationale de lutte contre la traite des personnes. Le cas des travailleuses domestiques, y compris mineures, est l'un des cas typiques qu'elle traite.
Auparavant, les familles pauvres donnaient leurs petites filles aux familles plus ou moins aisées et riches pour qu'elles soient scolarisées, parce qu'il n'y avait pas des écoles dans les campagnes.
Raouda Labidi est la présidente de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes.
C'est pour cette raison qu'au niveau de la mémoire, au niveau de la société tunisienne, c'est pas totalement refusé comme pratique.
Cette pratique évoquée par Raouda Labidi a eu cours jusqu'aux années 90 au moins. Pour en prendre le contre-pied, son message est clair.
Frapper fort. Pour mettre fin à un phénomène, il faut être très vigilant, il faut sensibiliser, mais aussi il faut appliquer la loi. Parce que ça aussi, ça donne des résultats impressionnant, le fait que les gens comprennent que c'est un crime, qu'il peut avoir 10 ans de prison.
L'objectif de l'instance est aussi de détecter de potentielles victimes et de les prendre en charge, qu'elles soient mineures ou majeures. 2 numéros verts et un site internet doivent accueillir les signalements de cas suspects. Ensuite, l'instance coordonne et met en relation les différents services de l'État qui peuvent intervenir. Dans le cas des mineurs, les services de protection de l'enfance sont en première ligne. Fadia Mefté est déléguée de la protection de l'enfance à Tunis. Elle a déjà reçu le signalement d'une fillette retenue de force comme domestique. Après une première investigation, elle se rend sur les lieux et parle avec le voisinage.
Chaque nuit, cette fille a hurlé. Pourquoi elle hurlait? Parce qu'elle était insultée, elle était maltraitée, elle était battue. Cette fille-là s'occupait de 3 petits gosses tout le long de la journée.
La fillette est retirée du foyer, puis ramenée chez ses parents, qui ont dû s'engager à deux choses.
Premièrement, de garder la fille chez eux. Deuxièmement, faire réinscrire la petite dans l'école. Et puis, on a fait tout un rapport et on a averti le procureur général. Il va poursuivre cette femme qui a employé et qui a abusé de cette petite fille.
En 2016, les services de protection de l'enfance tunisiens ont reçu 141 signalements d'exploitation d'enfants au travail, presque tous pour mendicité, vente à la sauvette et travail domestique. Une fois les enfants mis hors de danger, place au volet judiciaire. Raouda Labidi.
Et là aussi, on trouve l'instance qui accompagne, qui aide la victime à préparer son dossier et même à rédiger sa plainte, à avoir l'aide judiciaire, à être assisté par un avocat, à formuler sa demande, et même en cas de jugement, à appliquer le jugement, à avoir ses dommages et ses intérêts.
Sur le papier, la Tunisie s'est donc dotée d'instruments législatifs inédits pour tenter d'enrayer le phénomène du travail des enfants et de manière générale des cas abusifs de travail domestique. La loi organique votée par le Parlement en juillet 2016 et promulguée le 3 août de la même année en est le fer de lance. Reste maintenant à harmoniser l'ensemble des lois. Le Code du travail, par exemple, autorise le travail domestique des filles à partir de 16 ans, alors que le Code de protection de l'enfance de 1995 interdit, lui, le travail des mineurs jusque 18 ans. Le travail domestique ne serait-il donc pas un travail comme un autre? C'est la question que l'on se pose en écoutant Vassila.
Parfois, il m'arrive qu'une de mes maîtresses me dise « Vous devez absolument venir demain, sans faute ». Alors je m'y rends et j'entends dire « Non, aujourd'hui je dois sortir, allez-vous-en, je n'ai pas besoin de vous ». Je vous jure que plein de fois, je me mets là à l'arrêt d'autobus, obligée de demander de l'argent aux personnes qui attendent le transport. En effet, comme je pensais que j'allais revenir avec de l'argent pour la route, pour mes enfants, eh bien non, au lieu de ça, je me retrouve là à devoir demander des sous pour pouvoir rentrer à la maison.
Sur le toit d'une modeste maison de la banlieue populaire de Tunis, cette travailleuse domestique raconte un quotidien fait d'exigences absurdes des maîtresses de maison, de salaires non payés et d'humiliation. À ses côtés, une voisine et amie, Kira, dont les mains sont brûlées par l'eau de Javel.
Certaines se comportent mal, elles vous crient dessus, vous maltraitent en disant « Non, cette chaise ne doit pas être ici !» etc. Des fois, après avoir bien travaillé, bien nettoyé et bien rangé, elles vous somment de tout reprendre dès le début et vous voilà contrainte de le faire. Quand ils se mettent à table, on ne vous donne jamais à manger comme eux. On vous donne la nourriture qui date de 2-3 jours et on vous la réchauffe.
Toutes deux parlent pour la première fois et Kira refuse que son visage apparaisse de peur de se faire licencier sans ménagement. Aujourd'hui, les deux femmes aspirent surtout à une reconnaissance de leur travail et à des interlocuteurs accessibles pour défendre leurs droits.
Moi, par exemple, j'aimerais qu'on ait un endroit où on puisse déposer une plainte, où l'on peut entendre nos droits, au syndicat par exemple, ou à l'union du travail. Et on aimerait avoir une personne qui nous représente, que ce soit au sein de cette union du travail ou bien au Parlement. Mais hélas, cette personne, eh bien, elle n'existe pas. Les travailleuses domestiques comme moi, eh bien, elles sont oubliées. Elles n'ont pas le moindre soutien.
Dans une étude publiée en août 2017 par Action Peuple Solidaire et l'AFTUR, de l'Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement, la sociologue Zora Bouguera dresse le profil des travailleuses domestiques. La quasi-totalité d'entre elles travaillent sans couverture sociale, sans contrat de travail, avec des jours de repos décidés selon le bon vouloir des employeurs, et la majorité fait état d'abus, de violences verbales ou physiques. Travailleuses domestiques en Tunisie, la fin du silence. C'est un grand reportage de Cécile Debarge à la réalisation Eva Moschinski.